Yasmine Abdel Fadel. Des opinions tranchées, des propos divergents. Pour s'informer tout en divertissement. Savoir et comprendre, Yasmine Abdel Fadel. Avec Yasmine Abdel Fadel et Sophie Villeneuve, les bulletineuses. Cube Radio.
C'est ma co-bulletineuse préférée, Sophie Villeneuve.
Madame Yasmine.
Alors, on se retrouve pour reparler d'un sujet dont on avait largement parlé, il me semble, déjà il y a plus d'un an, Marie-Ève Proulx, puis toute la question de l'harcèlement psychologique.
En fait, c'est un peu fou qu'on se retrouve là, un an et demi plus tard, à voir qu'une personnalité comme Marie-Ève Proulx, une femme qui a été, en fait, une proche de François Legault, faut le dire, depuis les tout débuts de la CAQ, qui l'accompagne, qui a été nommée ministre. Elle était ministre responsable du développement économique des régions du Québec au début du mandat. Sa mauvaise réputation et les actions qu'elle a posées envers du personnel qu'elle a eu dans son bureau de circonscription, dans son cabinet de ministre, lui ont fait perdre sa charge ministérielle.
Oui.
Et là, les accusations se poursuivent, mais François Legault persiste et signe, malgré le fait que ça peut pas être une ministre parce qu'elle a un comportement qui ne fonctionne pas. Ça peut être une députée, une candidate de la CAQ.
Moi, j'ai trouvé ça, j'en ai parlé hier, là, j'ai trouvé ça malaisant hier que le premier ministre décide quelle version croire, détermine si la version est crédible ou pas, décide de choisir de se porter en juge, alors que la plainte, elle est formelle. La plainte est devant le tribunal administratif du travail. C'est pas juste une allégation inconnue et anonyme.
Écoute, j'ai lu ton papier. Je partage tes constats, Yasmine. Je ne crois pas que ce soit un pari viable à long terme de voir François Legault continuer de réitérer sa confiance et lui faire confiance un peu aveuglément, comme tu le dis. Il y a une poursuite de déposer au tribunal administratif du travail. Je veux dire, il peut pas se poser en juge et croire sa candidate, sa députée. La loyauté a des limites.
Mais est-ce que c'est une question de loyauté? Est-ce qu'il a besoin d'être loyal envers sa députée, elle qui le porte toujours dans l'embarras, qui le met dans l'embarras, qui est un boulet aujourd'hui pour la CAQ?
Mais tu sais, en politique, Yasmine, il y a des gens qui ont été là puis qui ont cru en toi dès le début. Puis tu sais, tu l'as probablement vécu toi aussi, tu l'as probablement vu en d'autres circonstances. Des gens... Tu te demandes pourquoi ils sont encore dans l'entourage d'un chef de parti, dans l'entourage d'un ministre. On se pose ces questions-là parfois, justement. Mais normalement, quand ça fait une fois, deux fois, trois fois qu'une personne te met dans l'embarras, ça devient difficile de justifier la loyauté puis de dire hey, « cette personne-là a cru en moi dès le début alors que personne n'y croyait ». Tu sais, j'ai du mal à comprendre quel est ce lien si fort qui peut s'unir François Legault et Marie-Ève Proulx pour qu'il lui fasse confiance, alors qu'effectivement, là, ça commence à faire 4, 5, 6 fois distinctes qu'il y a des articles, qu'il y a des accusations, qu'il y a des histoires. Puis là, ben, on va se le dire en coulisses, ce qu'on comprend, c'est qu'effectivement, elle est difficile à vivre, Marie-Ève Proulx.
Ben, c'est ce que tout le monde dit dans les coulisses, c'est que son cabinet, quand elle était ministre, c'était des portes tournantes, là. C'est, ça rentre puis ça sort en l'espace de le dire. Il y avait eu 14 départs en quelques mois au sein de son cabinet. Le premier ministre a jugé que c'était assez inacceptable pour lui retirer les dossiers de développement économique régional et de PME. Mais là, il y a comme une opportunité. L'opportunité, c'est celle des élections. Il n'y a rien qui l'oblige à se représenter, Mme Proulx, là.
Ben non. Puis, tu sais, moi, je trouve ça un peu fascinant, Yasmine, parce que il y a un risque, hein? Tu sais, alors qu'on s'enligne dans une campagne où tous les risques semblent calculés par la CAQ, on dirait que ça, c'est comme une espèce d'angle mort où on veut pas avoir la discussion sur ce mauvais traitement-là qui est infligé à des attachés politiques, à des êtres humains. T'sais, il me semble, est-ce qu'il y a juste moi qui vois le risque à ce que ça glisse? Puis tu sais ce que ça peut faire, une pomme pourrite comme ça en campagne électorale? Ça peut faire perdre des journées d'élection.
C'est un sideshow que d'habitude, tu ne veux pas avoir parce que, Sophie, corrige-moi si je me trompe, mais quand on est en politique, en campagne électorale, il faut gagner chaque jour. Puis à chaque jour où on parle de toi pour les mauvaises raisons, c'est un jour de perdu et un jour pour l'adversaire.
même si François Legault est en avance, même si la CAQ est dans une excellente posture, un sideshow comme ça, ça peut avoir un impact. Il faut qu'il soit mesuré dès maintenant. On ne peut pas laisser traîner une situation comme celle-là. Je veux dire, il n'y a rien qui justifie d'avoir une personne comme ça. Puis, pensons au fait, tu sais, imagine-toi une table au lendemain d'une campagne électorale qui, disons, est fidèle aux projections du jour. Là. Mettons qu'on y va avec les chiffres qu'on a en ce moment, on est le 11 août. Comment on est capable de dealer avec une table d'un caucus autour de la table, il y a une personne comme Marie-Ève Proulx, le malaise qu'on ressentait hier au sortir du Conseil des ministres, quelques collègues qui se sont timidement portés à sa défense. Moi, j'ai trouvé que, puis encore, tu sais, qu'il y a probablement des gens qui souhaitaient s'attirer les bonnes grâces du premier ministre en disant un peu ouais, comme lui. Ça. Mais le malaise, imagine, avec un grand nombre de députés, cette fille-là va être reléguée à quel genre de rôle? Après, comment ils vont réussir à dealer avec ça avec les collègues?
Ben, t'es déjà devenue une députée d'arrière-ban. Là, elle se rapproche ouais. pas mal à la porte de sortie. Mais là, on a de l'autre bord. T'as un autre extrême, Dominique Anglade, qui commente la situation.
Ouais, ouais, Dominique Anglade, qui te permet de dire que François Legault va trop loin, que François Legault ne devrait pas agir comme juge et partie, alors qu'elle-même l'a fait. Elle-même l'a fait avec Marie Montpetit assez récemment, on s'en souviendra.
C'est qu'elle a décidé, elle dit que c'était le rang zéro, puis elle a décidé de se départir ouais. de Marie Montpetit au sein de son équipe. Marie Montpetit, ouais. qui était une députée vedette, la critique en matière de oui. santé pendant la pandémie, c'est pas n'importe qui fait ça.
Non, puis Marie Montpetit qui avait eu bon une situation, on avait allégué également, mais sans qu'il y ait poursuite, sans qu'il y ait plainte formelle qui a été déposée. Tu le corrige-moi si je me trompe, mais il me semble qu'il n'y a pas eu de plainte formelle déposée auprès d'une instance.
Non.
Et malgré tout, mais ça, tu sais, ce que je comprends, c'est qu'il y avait un peu de grenouillage et que c'était pas nécessairement l'amour fou entre Marie Montpetit et Dominique Anglade.
Mais c'est là où toutes les questions se posent. T'sais, on sait que, par exemple, Marie-Ève Proulx a été une fidèle de François Legault depuis la toute première minute de création de la CAQ.
Exact.
Alors que les rumeurs veulent que ces cupidons ne tenaient pas par les deux mains Marie Montpetit et Dominique Anglade. Est-ce que Cupidon joue un rôle dans la gestion des problèmes d'harcèlement psychologique à l'Assemblée nationale? On peut se poser la question.
La loyauté, les relations d'amitié, c'est tellement important de comprendre ces dynamiques-là entre les individus. Quand on recule dans le temps, qu'on regarde les courses à la chefferie, qu'on regarde la fondation des partis, au Parti québécois, on était assez experts en la matière jadis. Quand venait le temps de savoir quelles alliances allaient se nouer, qui avait travaillé avec qui à l'époque de telle campagne à la chefferie, puis on se rappelle qu'il y en a eu. Il y en a eu une et une autre des campagnes à la chefferie depuis les années 2000. C'est tellement important de comprendre toute cette joute-là, toute cette dynamique de pouvoir-là pour comprendre comment les liens se font et se défont.
C'est intéressant. On va suivre comment Marie-Ève Proulx va gérer la campagne électorale qui est à venir et qu'on apprend aujourd'hui qui va durer 36 jours, qui pourrait être déclenchée le 29 août. Et en parlant de campagne électorale, ben il y a le DGE, le directeur général des élections, Pierre Reid, qui a accordé une entrevue hier à la presse canadienne.
Oui, exact. En fait, qui est sorti pour traiter de deux sujets assez importants, certes. On le sait, le Québec n'a pas encore adopté de mesures, n'a pas encore modifié sa loi électorale pour faire en sorte qu'il y ait des limites à atteindre. Bon, la période de campagne, à proprement parler, a des limites de dépenses pour les partis, certes, mais les semaines, voire les mois qui la précèdent, ne sont pas encore encadrées. Alors que c'est le cas dans d'autres provinces canadiennes, alors que c'est le cas également dans d'autres pays dans le monde, les semaines et les mois qui précèdent les élections à date fixe, parce que là, ça laisse au parti au pouvoir et au parti qui a le plus de moyens ou qui ont le plus de moyens, du temps pour faire des campagnes publicitaires qui ne comptent pas comme des dépenses électorales. Parce que c'est ça qu'il faut bien expliquer aux gens. La publicité, c'est encadré en temps de campagne pour éviter qu'un parti qui a davantage de donateurs puisse se retrouver dans tous les médias, puisse tapisser ses messages publicitaires un peu partout dans une période qui est très important pour que l'électorat fasse une tête. T'sais, tout le volet médiatique joue un rôle, certes, mais les partis se paient de la publicité, se paient de l'affichage pour être partout et pour que les gens saisissent bien les messages qu'ils veulent envoyer. Et là, ce que le directeur général des élections questionne, c'est ne devrions-nous pas encadrer les semaines qui précèdent la campagne électorale? Parce qu'on le voit, tu l'as dit, la campagne devrait être déclenchée le 29 août, ce qui la tient à son nombre minimum de jours, donc de 36 jours.
Ça, et c'est court, ça. Puis ça, quand c'est court, c'est à l'avantage du meneur de la course, qui est la CAQ aujourd'hui.
Mais c'est habituel. C'est habituel. On en a vu quelques-unes des campagnes plus longues. On se rappelle de celle de Justin Trudeau en 2015, qui a mené Justin Trudeau au pouvoir.
Trois mois.
Ouais, trois mois de campagne. Une erreur de Stephen Harper, d'ailleurs, qui avait fait le pari qu'une longue campagne en période estivale allait le favoriser, mais non, qui lui avait fait perdre le pouvoir au profit de Justin Trudeau. Il y en a eu quelques-unes des campagnes plus longues, mais la norme, la tendance normale d'une campagne électorale, c'est environ 36 jours. Puis on en a vu des campagnes de 36 jours où au jour 1, on avait l'impression que ça allait être un résultat X, puis au jour 36, au jour Z, c'était complètement autre chose. Donc,
la campagne de 2014, ça a été ça. C'est Pauline Marois qui l'a déclenchée parce qu'elle était en haut des sondages. Le résultat a été différent au mois d'avril là, quand le vote a eu lieu.
Le résultat a été très différent de ce qui avait été escompté. C'était pas la bonne stratégie. Ça s'est pas passé de la façon dont c'était prévu. Est-ce que le Parti québécois de 2014 était préparé de la même manière que la coalition Avenir Québec de 2022? Je ne crois pas. Je crois que c'est plutôt différent. Là, on est au sortir d'une pandémie. On est au sortir de 4 ans de pouvoir. On regarde l'équipe aussi qui a réussi à mettre en place François Legault. C'est quand même...
On
en a parlé la semaine dernière. C'est quand même assez impressionnant de voir le nombre de candidats. Puis là, on va faire le clin d'œil puisque nous y sommes et puisque je sais que pour toi aussi, c'est important de voir autant de femmes d'envergure qui se lancent. Pas juste à la coalition Avenir Québec, mais aussi dans d'autres partis, chez Québec solidaire, au Parti libéral. C'est fort, fort intéressant de voir cette campagne-là qui va vers une presque parité.
On risque d'aller, je pense même que dans les candidatures féminines à la CAQ, on dépasse le 50%.
Je pense à 56.
C'est ça.
Exact, c'est ce que je voyais.
C'est quand même assez impressionnant. Et moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est qu'on voit qu'il y a eu, on voit qu'il y a plusieurs nominations des peuples autochtones et on pourrait assister à la première élection d'un député ou d'une députée autochtone. Ça serait un beau message parce que...
Il y a déjà eu un député autochtone, Alexis Wawanala, en 2007 au Parti québécois. Alors là, je me permets de le mentionner. Alexis Wawanala avait été député du Parti québécois, mais ça serait la première fois qu'on verrait une femme députée autochtone. Ouais.
Ça pourrait être très intéressant de pouvoir marquer cette étape importante dans la réconciliation et dans le rapprochement des peuples.
Absolument. Puis je pense que c'est essentiel aussi d'avoir une représentativité réelle de la population sur le territoire. Puis de montrer ces rapprochements-là, je pense que effectivement de voir des gens, Maïté Saganache, la vraie Saganache qui se présente dans Ngava pour Québec solidaire. Je ne sais pas si tu connais la fille.
La fille de Roméo Saganache qui était un ancien député du NPD au fédéral.
Exact. C'est une fille assez formidable que j'ai eu le plaisir de croiser dans ma carrière. Vraiment une chouette fille. En tout cas, bref, on souhaite la meilleure des chances à tous les candidats, mais de voir des personnes comme ça se lever et décider d'amener un vent de fraîcheur, de nouveauté, quelque chose de nouveau dans le débat politique, moi, ça me ravit.
Ben moi aussi, Sophie Villeneuve, toujours un plaisir de te parler et à très bientôt.
À bientôt.